Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
Le Positif Morning est jusqu'à 10h avec une matinale un peu particulière comme on en fait parfois. Une invitée est avec nous. Elle était avec nous dans l'interview de 3 minutes à 7h20 et 8h20. Elle nous a rejoint pour toute cette heure. Jusqu'à 10h, elle est là. Qui est-ce, Nathanaël?
Pas 7h, 9h, Sandrine. Mais bon, c'est pas grave. Durant 7h. Mais c'était un mauvais jeu de mots.
Bon, bref.
Bonjour Christine Wild.
Bonjour.
Vous voyez, il y a une belle ambiance dans le studio. On essaie de faire de l'humour, mais ça marche pas.
Ça marche.
Christine Wild est là pourquoi ce matin, Sandrine?
Pour nous parler de la maltraitance dans l'enfance, et on ne parle pas uniquement de maltraitance maltraitance physique. On va développer en plus avec Christine Wild de quoi on parle. Christine Wild est conseillère conjugale et familiale. Si vous avez des questions, les amis, c'est maintenant qu'il faut les poser pour que notre invité puisse vous répondre en direct. On précise bien sûr que vous n'êtes pas obligé de donner votre nom. Si vous nous demandez de pas prononcer même votre prénom, puisqu'on prononce votre prénom à l'antenne généralement, vous nous le dites tout simplement, on ne prononcera pas votre prénom, mais ne restez pas avec vos questions et avec les choses peut-être qui vous bloquent, peut-être depuis longtemps. Ce matin, profitez-en.
Oui, sur la page Facebook et au plus 33 652 300 342. Ce que Sandrine essayait de dire, c'est que vous pouvez passer de façon anonyme, tout simplement. Plus 33 652 300 342. On va parler de quoi exactement quand on utilise ce mot de maltraitance?
Alors, c'est toujours très difficile à définir et à comprendre parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de maltraitance physique. Vous comme moi, dans les faits divers, dans les journaux, on parle énormément d'enfants battus, d'enfants tués, d'enfants violés, etc. Et c'est choquant. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais plutôt parler de tout ce qui est négligence et qui devient de la maltraitance dans l'enfance parce que c'est des maltraitances, des négligences au quotidien et qui sont tout aussi dévastatrices et destructrices pour un enfant. Et c'est vrai qu'ils sont souvent beaucoup, beaucoup plus nombreux que ce qu'on imagine. Et la difficulté, justement, c'est quand il y a une maltraitance physique, les personnes aux alentours s'en aperçoivent. Mais la négligence qui devient de la maltraitance est beaucoup plus difficile à déceler, déjà par le parent, parce qu'il n'est pas toujours conscient de ce qu'il inculque à l'enfant, mais aussi de l'enfant parce que lui ne comprend pas ce qui lui arrive, et aussi pour l'entourage. C'est très difficile à déceler, c'est pas toujours évident à comprendre et à saisir.
Et bien justement, ce matin, on va vous aider à déceler tout cela, Sandrine.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est bien pour ça que on fait une émission, une spéciale jusqu'à 10h avec donc Christine Wild, conseillère conjugale et familiale. Vous avez déjà des questions, vous savez déjà de quoi il s'agit ou vous avez des doutes peut-être vous concernant. 0033 652 300 342. N'hésitez pas à poser vos questions, micro ouvert si je puis dire. On prend toutes les questions et si vous voulez rester anonyme, il suffit de le demander tout simplement. Quelles sont ces négligences qui peuvent devenir de la maltraitance concrètement?
Alors, ces négligences qui peuvent devenir de la maltraitance peuvent se traduire sous différentes formes. Alors, je vais donner des exemples bien concrets. Elles peuvent être verbales, les injures. Quand on injure les enfants sans cesse, t'es nul, t'y arrives pas, des mots très durs qui désinhumanisent l'enfant, qui le dévalorisent. Les hurlements également. J'ai eu une jeune femme dans mon cabinet un jour qui est venue. Elle était en dépression, elle était vraiment très mal. Et très vite, en fait, elle m'a parlé de son enfance et elle me parlait de le fait que son père, dès le matin, lui hurlait dessus. Oh. Et pour elle, elle ne comprenait pas. Donc, elle s'est mise à vraiment toujours réfléchir qu'est-ce qu'elle a mal fait, comment elle doit marcher, qu'est-ce qu'elle doit habiller, comment elle est coiffée. Parce qu'en fait, elle ne savait jamais pourquoi son père lui hurlait dessus sans cesse. Et en fait, ça l'a emmenée dans une dépression profonde et même plus. Mais je ne vais pas en dire plus.
Mais ça, c'est vraiment difficile parce que comme vous le disiez, ce ne sont pas forcément des choses, on parle de la fessée, etc. Et donc c'est des choses, des maltraitances physiques. Mais finalement, ces choses-là, on n'en parle pas beaucoup et ça a beaucoup plus d'impact, vous le disiez en introduction, que même une fessée.
Exactement.
Parce qu'en fait,
c'est un impact émotionnel beaucoup plus profond et ça n'a pas de sens pour l'enfant. Parce que l'enfant ne comprend pas, là, dans cette situation, la jeune fille disait « Je ne comprends pas pourquoi il se déchaînait sur moi et j'étais convaincue que c'est moi qui avait probablement fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mmh. Et j'ai beau chercher je ne sais pas quoi. Et chaque jour, c'était autre chose.
Dans les négligences verbales, les silences peuvent être aussi problématiques.
Oui, les silences.
Alors pourquoi ça donc ?
On pourrait se dire super, papa, maman se taisent, mais pour un enfant, c'est totalement insécurisant. Mmh. Il se lève, il dit quelque chose, le père boude, la mère boude.
Il n'y a pas d'échange.
Voilà, et c'est comme un mur, et en fait, c'est en train de signifier à l'enfant, je ne t'aime pas, tu ne m'intéresses pas. Mmh. Et pour un enfant, c'est tellement déstabilisant et insécurisant, ça l'emmène dans des angoisses. Mmh. Hein, donc, c'est vrai que le silence est tout aussi destructeur. Et pour moi, la négligence amène à la maltraitance quand en fait ça se prolonge dans la durée. Mmh. Hein, et quand il n'y a pas de sens pour l'enfant, c'est de là que ça devient une maltraitance. En fait, j'imagerais ça comme une plaie quand on s'est ouvert, on est tombé, on s'est ouvert, on a une plaie, et qu'avant même qu'elle guérisse, on retombe dessus. Mmh. Et puis, sans cesse, et la plaie n'a jamais le temps de guérir, mais au contraire, elle va s'infecter et se surinfecter. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette négligence qui devient de la maltraitance et qui peut amener vraiment à des grosses difficultés dans l'âge adulte, à cause de ces maltraitances.
Alors, il y a aussi les rabaissements, les critiques continues, bien sûr, dans tout ce qui est verbal. Il y a le côté psychique, et c'est aussi, est-ce qu'il est possible de donner quelques exemples et de citer les autres, s'il vous plaît, Christine ?
Oui, par exemple, le chantage. Des parents qui sont tout le temps en train de faire du chantage. Si tu ne ramènes pas un 15, tu n'as de moyenne, tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose, ou je ne t'aime pas si tu ne fais pas telle et telle chose. En fait, des chantages continus, de l'humiliation également, l'humiliation en public, l'humiliation à tout niveau. Pareil, j'ai une autre jeune femme qui est venue un jour et elle m'expliquait que en fait, ses parents allaient souvent à la plage, à la piscine, et puis la jeune fille était tout le temps nue, sans maillot de bain. Mmh. Et souvent elle disait, mais je vais mettre un maillot de bain comme les autres. Et puis le père qui disait, ah, mais arrête donc, t'es une petite fille, t'as encore rien à montrer. Et donc jusqu'à 8-9 ans, elle était toute nue. Et du coup, elle n'allait pas à la piscine, elle se recroquevillait parce qu'elle avait tellement honte, elle était tellement gênée. Mmh. Mais pour eux, pour les parents, ils trouvaient qu'elle faisait bête. Je te paye la piscine, t'es même pas capable de rentrer et d'avoir du plaisir. Mmh. Tu fais tout contre nous. Alors qu'en fait, elle a vécu ça comme de l'humiliation d'être nue et de se montrer nue.
D'autres exemples peut-être de négligence qui sont de la maltraitance, Christine ?
Oui, alors il y a aussi tout ce qui est manipulation.
Hein, c'est-à-dire
manipuler l'enfant dans certains domaines, arriver à leur fin en fait. Souvent le parent le fait pour être aimé. L'enfant remplace le conjoint, ou l'enfant remplace quelque chose de précieux pour l'enfant, et du coup on le manipule pour arriver à ses fins propres à soi. Mmh. En tant que parent.
Encore une fois, là, quand on parle de tous ces exemples-là, ça peut arriver de temps en temps de le faire, mais c'est la continuité de tout cela qui fait que c'est une négligence, une maltraitance.
Alors, c'est très bien que vous nous dites ça, parce que c'était vraiment ce que je voulais raccrocher maintenant.
Bah, voilà.
Parce que c'est vrai que les auditeurs qui vont nous écouter se disent « mince, ça m'est déjà arrivé, mon pauvre enfant est maltraité ». Non, effectivement, ça peut à chacun nous échapper et nous arriver. Mmh. Et c'est pas quand ça arrive ponctuellement que c'est de la maltraitance. C'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quand c'est continu, dans la durée, dans le temps, et l'enfant c'est un mode de fonctionnement. Mmh. Et c'est là où ça devient de la maltraitance. Bien sûr, on a tous à un moment donné peut-être fait un chantage, ou essayé de manipuler pour arriver à ses fins, ou peut-être à un moment donné dit un mot, mais tu es bête, ou mais franchement tu t'es vu comme tu es, etc. On a sûrement à un moment donné réagi comme
et
ça.
Et c'est le message qu'on a reçu anonyme, hein. On a tous vécu ça, dit cette personne-là. Si tu me fais pas un câlin, tu es méchante. La personne dit, j'avais 14 ans à l'époque, j'en ai 60. Ponctuellement, ça peut arriver, mais si c'est tout le temps, c'est là où c'est vraiment la manipulation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Hein. Oui, je voudrais juste réagir. Si on a ce message alors que la personne a 60 ans, ça veut bien dire que c'est extrêmement marquant pour toute une vie.
Exactement. Selon comment c'est vécu, selon comment c'est dit, oui, ça peut être très marquant. Mmh. Et puis après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est voilà, si c'est quelque chose qui était dans la durée ou si c'était juste ponctuel.
Si c'était juste une fois ou deux, oui. Merci Christine, on continue avec vous jusqu'à 10h. La maltraitance dans l'enfance, c'est le sujet qu'on aborde ce matin. Donc jusqu'à la fin de ce Positif Morning, vos questions au 0033 652 300 342. Il y a aussi de la négligence par privation de soins. De quoi s'agit-il, Christine ?
Alors, la privation de soins, c'est le manque d'hygiène. Pour certains enfants, à un moment donné, les parents disent « Pourquoi prendre une douche tous les jours ?» Ou alors « Ne pas brosser les dents ?» Ou « Ne pas coiffer les enfants ?» Des fois, il y a des enfants qui vont à l'école avec les cheveux complètement décoiffés. Et pour l'enfant, en fait, c'est de la négligence qui devient de la maltraitance parce qu'il se sent humilié, il se sent négligé, on se moque de lui. Donc, c'est vraiment aussi un point important. Il y a aussi la négligence par privation de soins, par exemple la nourriture. On fait du chantage avec de la nourriture. Si tu fais pas telle et telle chose, tu n'auras pas de goûter, tu n'auras pas de dessert, ou alors je suis fâchée, maintenant tu vas au lit sans manger. En fait, c'est de la maltraitance. On ne peut pas priver un enfant de nourriture.
Et encore une fois, c'est sur la longueur, on parle
On ne parle pas d'une fois, tout à
bien
fait.
Bien entendu, qu'on se comprenne bien avec les auditeurs, amis auditeurs et auditrices. On voit tout ça donc dans les maltraitances. L'enfant est au cœur de ce sujet-là. Et je pense qu'il est, comme vous le disiez en antenne, il est bien de comprendre les besoins de l'enfant pour vraiment arriver à satisfaire finalement ce dont il a besoin au quotidien.
Oui, alors je vais particulièrement parler du besoin de l'enfant du point de vue psychologique. Alors on va un petit peu rentrer dans la psychologie, mais je pense que c'est important à comprendre parce qu'on pense que l'enfant a juste besoin quand il naît de manger, de boire, de le langer et de dormir. Et d'ailleurs, j'ai un jour une jeune femme qui est venue, pareil, dans le cabinet, et elle me disait, elle souffrait tellement du manque d'amour de sa maman, et elle l'exprimait, et elle faisait tout, elle mettait tout en œuvre pour prouver à sa maman qu'elle n'était pas bête, qu'elle peut faire des études, donc elle a fait ingénieur, je ne sais plus dans quoi, mais en tout cas, elle a vraiment voulu prouver qu'elle y arrive. Et sa maman lui disait tout le temps, elle me dit, mais quand je disais, maman, tu ne m'aimes pas, elle disait toujours, écoute, je t'ai nourrie, je t'avais un toit où tu pouvais dormir, je ne sais pas de quoi tu as besoin de plus. Et c'est vrai que c'est un petit peu une mentalité, c'est bah, je fais ce qu'il faut. Mais l'enfant n'a pas seulement besoin de ça, et c'est ce que j'aimerais développer maintenant. L'enfant qui vient au monde est entièrement dépendant de sa maman, du point de vue bien sûr physique, mais aussi affectif et cognitif. Les parents ont donc un rôle de soins physiques et psychiques, ils ont la responsabilité de répondre à ses besoins. En fait, j'aimerais un peu parler de Winnicott, qui est un psychanalyste. Il y a aussi Bowlby ou Melanie Klein qui ont ce registre-là, qui se sont intéressés aux besoins de la petite enfance. Et ils sont particulièrement intéressés à l'interaction entre la mère et son bébé. Et c'est vrai que la mère s'identifie à ce dernier et s'adapte continuellement à ses besoins. Et souvent de manière inconsciente, c'est pratiquement inné, ce qui va permettre à l'enfant d'arriver petit à petit à l'autonomie. Le nourrisson souvent est assailli de plein de données sensorielles. Il entend des cris, il voit des choses, et en fait, ça le déconcerte et il ne comprend pas. Donc du coup, il projette cette angoisse sur sa mère, par son expression ou ses pleurs, et la mère va alors donner un sens à ce que l'enfant est en train de vivre au travers du soin et de la parole apportée. Winnicott, j'aime bien, parle beaucoup de la mère suffisamment bonne, qui désigne une mère qui répond de manière satisfaisante aux besoins de son enfant. Et il le résume justement en trois actes. Donc on entend, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du handling, c'est le maintien, donc la manière de porter l'enfant. Et cette manière de porter l'enfant permet à l'enfant de se sentir exister, de se sentir une unité différenciée et offre une assurance et une sécurité affective. On parle également du holding, c'est la manière plutôt de manipuler l'enfant dans les différents soins. Les caresses, le bercement, cette sensation de toucher qui est accompagnée de paroles pour donner sens, contribue au développement de la fonction mentale, au sentiment d'être réel. Et il parle ensuite de l'object presenting, c'est la manière dont est présentée la réalité à l'enfant au travers d'un objet. Il permet à l'enfant de découvrir le monde extérieur petit à petit.
Et alors qu'est-ce qu'il faut éviter par exemple justement au niveau du holding ou de l'object presenting ?
Alors justement, c'est ce que je disais, c'est au niveau des caresses, au niveau des bercements, c'est d'accompagner nos gestes avec des paroles bienveillantes pour expliquer, pour donner sens à l'enfant.
Alors qu'est-ce que nous apporte finalement Winnicott dans notre compréhension, notre sujet ce matin ?
Alors Winnicott, dans ce que je viens de développer, parle particulièrement du fait qu'il faut vraiment prendre soin physiquement de l'enfant, l'enfant a des besoins particuliers et c'est pas juste je lui donne le biberon, je le couche. D'ailleurs j'aime beaucoup parce qu'il continue aussi et explique que le parent n'est pas seulement là pour nourrir physiquement leur enfant mais également affectivement. D'ailleurs, il y a un des psychanalystes qui disait « L'enfant se nourrit pas seulement du sein, mais il se nourrit au travers du regard de la mère. » En fait, il va lire au travers d'elle et ce regard va le construire dans sa personnalité. Il va lui donner confiance en lui-même. Cet échange d'affect et de dialogue est structurant et organisateur pour lui. Il sait qu'il existe, il sait qu'il a un regard bienveillant sur lui, ça construit sa personnalité, ça renforce en tout cas son estime de soi.
Alors l'enfant il a besoin de plusieurs besoins pour grandir, ça c'est ce que vous nous disiez exactement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans cette réflexion ?
Oui, alors l'enfant a besoin d'être aimé, d'être respecté, d'être accepté et protégé. Mais cela ne suffit pas, comme je disais, la mère a également un rôle dans la construction de sa personnalité au travers de son regard dans lequel l'enfant se nourrit. Pour ce faire, un regard bienveillant et une réponse cohérente des parents empreinte d'amour aidera l'enfant à évoluer dans ce sens.
On a reçu une question auditrice pour notre invitée Christine Wild, qui est conseillère conjugale et familiale et avec qui nous parlons de maltraitance émotionnelle dans l'enfance. La personne nous demande d'utiliser le pseudo Nathalie, c'est donc un pseudo qu'on va utiliser. Nathalie qui nous dit « Ayant été victime de maltraitance enfant et témoin de violence à la maison, alcool, maladie lourde, mes parents n'étaient clairement pas en capacité psychique d'assurer leur rôle de parent. J'ai pris leur place pour m'occuper d'eux et gérer la maison et ce toute mon enfance et adolescence. Mes parents ne me sécurisaient pas. Par exemple, j'ai été battue par une instite sans réaction de leur part malgré mes confidences. Je ne mangeais pas toujours à ma faim et je n'ai pas eu l'écoute et le soutien qui m'auraient permis de grandir en sécurité et en confiance. J'ai par conséquent des difficultés à prendre confiance sur ma capacité à protéger mon enfant aujourd'hui, angoissée à l'idée qu'un adulte la maltraite ou que je ne puisse pas subvenir à l'un de ses besoins et j'ai également du mal à me projeter pleinement dans mon rôle d'épouse. Que me conseillez-vous ?
Alors déjà, j'aimerais remercier la personne qui a envoyé ce mot parce que il faut beaucoup de courage pour oser en parler. Et c'est justement là un petit peu la réponse que j'aimerais donner, c'est que quand on a vécu des choses aussi difficiles, aussi lourdes, aussi profondes, c'est important à un moment donné d'exprimer le vécu, de mettre des mots pour donner sens à ce qui a été vécu. Après, je ne connais pas tout le contexte et c'est compliqué de donner une réponse magique de voilà comment guérir, mais je pense que c'est apprendre petit à petit à refaire confiance et c'est un processus, un cheminement de guérison. Des fois, il faut de l'aide pour s'en sortir et pour réapprendre à faire confiance. En tout cas, ce manque de sécurité, c'est tout à fait une des conséquences de la maltraitance, mais ça, on en parlera tout à l'heure. J'aimerais juste rajouter que vivre des humiliations ou des violences verbales régulières insécurise l'enfant sur l'amour que ses parents peuvent lui porter. Et un des premiers rôles, comme le dit Bowlby, un autre psychanalyste, l'objectif des parents, c'est de sécuriser l'enfant. Alors, de même, des punitions démesurées ou injustifiées sont des actes incohérents qui n'ont pas de logique pour l'enfant. Il subit une injustice, donc il ne connaît pas la raison. Ce qui va susciter des angoisses chez lui qui vont inévitablement entraîner des souffrances et un manque considérable d'estime de soi. Et c'est exactement sur cette estime de soi qu'il faudrait travailler par rapport à Nathalie. Vraiment de retravailler l'estime. Qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui était juste dans mon enfance ? Et qu'est-ce qui était faux ? Qu'est-ce qui était...
Rétablir la vérité.
Voilà, c'est ça. Et de comprendre ce qui est du vrai et du faux.
Quelles peuvent être les conséquences de ces maltraitance, on va les rappeler, Christine.
Oui, alors j'aimerais parler tout d'abord, et c'est ce qu'on a déjà vu, le manque d'assurance, la faible confiance en soi et surtout la mauvaise estime de soi. Après, il y a également des choses quand la maltraitance a duré dans le temps et vraiment est récurrente. À un moment donné, ces personnes peuvent tomber dans la dépendance, l'alcool, la drogue, etc., pour oublier tout simplement. Pour oublier, pour noyer le chagrin, parce que c'est la seule issue de secours, la seule arme. Après, il y a également impossibilité de parler de ses sentiments et de ses émotions. Souvent, les personnes ont du mal, du coup, à exprimer ce qu'ils ont vécu parce qu'on a étouffé leurs sentiments. On leur demandait de se taire sur ce qu'ils vivaient. Il y a également la tendance à l'autopunition, scarification, anorexie, suicide est souvent aussi une conséquence de la maltraitance.
Alors, on a eu pas mal de sujets. Hein. Peut-être, Sandrine, lire juste ce message qu'on a reçu anonyme.
Oui.
Pour montrer les exemples qu'on reçoit. On en a encore d'autres. Malheureusement, on n'a pas le temps de lire tout ça avant d'arriver à la conclusion. Donc, Christine.
Oui, tout dernier exemple. En tout cas, on voudrait vous remercier sincèrement pour vos messages ce matin et vos témoignages. Je me souviens que lorsque ma mère me coiffait, j'avais toujours l'impression que ça l'énervait. Elle me tirait les cheveux et elle était assez brusque dans ses gestes. En plus, elle s'énervait quand je bougeais. En fait, à chaque fois qu'elle devait s'occuper de moi, j'avais l'impression que je la dérangeais. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et c'est toujours le cas. J'ai l'impression d'être un fardeau pour ma mère et mes parents. En général, j'ai l'impression que ma mère m'en veut et c'est aussi la preuve, c'est ce qu'on disait Christine, que les traces et les conséquences se poursuivent dans l'âge adulte longtemps après l'enfance.
Oui, tout à fait.
En conclusion de cette émission, malheureusement, on pourrait encore donner plus de détails, mais il faut s'arrêter à un moment donné et faire une conclusion, Christine.
Oui, alors moi j'ai envie de dire, prenons notre rôle de parents à cœur. Les enfants n'ont pas seulement besoin de soins physiques, mais aussi affectifs. Et ça passe par la parole, les actes, le regard bienveillant. Cet enfant que Dieu nous confie est si fragile dans son être, aidons-le à se construire. Oui, des fois c'est difficile et il est évident que notre rôle c'est aussi de l'éduquer. Mais veillons à l'art et la manière de le faire. Évitons la manière destructrice et rabaissante, mais optons pour la manière bienveillante.
Voilà pour cette belle conclusion, Sandrine.
Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté dans cette émission.
Merci à vous.
Merci beaucoup, merci encore pour vos témoignages. On se retrouve demain.
Oui, on va rappeler avant que Christine nous quitte qu'on peut aussi la contacter, puisqu'elle reçoit directement.
Et même
également
par Skype.
Peut-être rappeler le site internet, Christine, ou plutôt un site internet qu'on mettra sur le nôtre d'ailleurs, pour que vous puissiez retrouver facilement. Et un numéro de téléphone?
Oui, c'est le 07 80. 22, 28, 65, 24.
Voilà, toutes ces coordonnées, on les remettra sur le site internet, Sandrine.
Et le site internet, justement?
On le remettra sur le nôtre, Sandrine.
Et ben on le remettra sur le nôtre. Voilà. Et ben on se retrouve demain.
À partir de 6h. Passez une excellente journée. Bye bye.